BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle année 2022 qui s'annonce bien sûr riche en événements scientifiques, médicaux, économiques, politiques bien sûr. On n'aura donc pas le temps de s'ennuyer. N'oubliez pas, Check-up Santé, c'est avec vous et pour vous. Et si vous avez des idées, si vous voulez les exprimer, vous êtes les bienvenus sur le plateau. En toute liberté, j'insiste, et surtout évidemment dans la bonne humeur. Alors je suis très heureux de faire cette première émission autour d'un nouveau métier qui explose ces dernières années, qui a révolutionné la communication et bousculé la planète santé, c'est le métier d'influenceur. Les plateformes blog, les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok sont les nouveaux vecteurs d'expression diverses et variées utilisées par de nombreux professionnels de santé, mais aussi par des patients. Je ne pouvais pas ne pas inviter les spécialistes français de ce nouveau mode de communication, David Reger et Julie de Folleville, qui dirigent la société RCA Factory. Et pour confirmer cet engouement, j'aurai le plaisir d'accueillir une véritable influenceuse, Delphine Rémy, qui vient spécialement pour nous de Bruxelles et qui cartonne avec sa plateforme Cancer Je Gère. Check-up Santé 2022, aujourd'hui spécial Latin Follower, c'est parti. Julie de Folleville, bonjour.
Bonjour Fabien, merci de nous recevoir aujourd'hui.
Bah, c'est un plaisir. David Reger, bonjour.
Bonjour et bonne année.
Bonne année à tous les deux.
Très bonne année.
Bon, alors David, vous avez fondé RCA Factory il y a un peu plus de 10 ans. Vous êtes ingénieur informatique à la base, ce qui peut-être vous a fait un peu plus vite comprendre l'intérêt de la communication par le digital.
Oui, c'est vrai que le fait d'être ingénieur, moi j'avais avant de créer l'agence, j'ai travaillé beaucoup sur des sujets web, en particulier sur du conseil pour les entreprises, pour les accompagner dans l'extension de leur métier sur Internet. Et c'est vrai que assez vite, on a vu arriver l'émergence des blogs, l'émergence des réseaux sociaux et qui se sont affirmés peu à peu dans le système d'opinion aujourd'hui.
Mmh. Alors Julie de Folleville, vous êtes directrice associée chez RCA Factory. Vous êtes passée par Public Sénat, par le ministère de l'Agriculture, par Equidia avant de rejoindre RCA en 2017. Donc après le parcours équestre, le parcours santé.
Exactement. J'ai une famille dans le milieu de la santé, une maman notamment, donc ouais. J'ai connu quand même ce milieu depuis que je suis jeune. Mmh. Et puis les réseaux sociaux, le digital, voilà, ça m'a beaucoup intéressée en 2017 et c'est pour ça que j'ai rejoint l'agence et je suis associée depuis un an avec David.
Bravo. Bravo, magnifique.
Bah oui. Bon.
quand a véritablement démarré cette révolution digitale dans la communication et notamment dans la communication santé?
Bah moi, depuis mon arrivée au sein de l'agence, j'ai vu que c'était en constante évolution et il y a eu une accélération aussi. On va le voir avec les professionnels de santé depuis un an et demi et la crise sanitaire, la crise Covid.
Oui. Alors David, RCA Factory, c'est une boîte de com qui n'est pas tout à fait comme les autres.
Non, c'est vrai, on a cette spécificité en fait d'être né avec le réseau social. On est spécialisé dans le domaine de la santé et on accompagne les acteurs dans la définition de leur stratégie de communication social media, marketing digital et dans la mise en œuvre de ces stratégies. Ouais. Voilà, on travaille aussi bien pour l'industrie pharmaceutique, pour des groupes d'hôpitaux, pour des assureurs, mais aussi des associations de patients. Voilà. Donc c'est vraiment à la croisée du social media et de la santé.
Oui. Donc des entreprises, des associations, des individus aussi, parfois, oui. Non, qui ont besoin aussi d'améliorer leur communication digitale.
Bien sûr, d'ailleurs depuis quelques années, on accompagne aussi les dirigeants. Avant, il fallait accompagner les dirigeants dans la prise des paroles dans les médias, donc on faisait des média training. Aujourd'hui, on fait du social media training et on organise aussi la communication personnelle des dirigeants sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, ça fait partie d'une de nos activités.
Et en 10 ans, l'équipe a grandi.
Oui, on est une vingtaine de personnes aujourd'hui.
Quand même.
Voilà, c'est vrai, avec quand même aussi cette spécialisation. Donc, en effet, c'est une équipe aujourd'hui.
En plus, en plein Paris.
En plein Paris.
c'est pas toujours évident d'être en plein Paris parce que c'est difficile, parce que c'est plus cher, parce que...
Donc, mais le télétravail aide beaucoup aujourd'hui. Hein.
Le travail aide beaucoup.
Le télétravail.
Bien sûr.
Le travail aussi.
Et le travail aussi. Donc, vous avez aussi fondé deux médias.
Oui.
100% digitaux, 100% social media.
Oui, c'est vrai qu'on avait une expérience de création. On était à l'initiative des premières communautés de patients. En particulier, on avait lancé une communauté sur la polyarthrite rhumatoïde avec le support de Roche à l'époque. Et puis, au fur et à mesure, on a créé des communautés. Et puis, on s'est dit, on aimerait bien aussi créer notre propre média. Et donc, on a lancé We Are Patients, qui est un média des patients engagés.
Il y a longtemps, là
Il y a quelques années maintenant, mais disons que ça fait 3 ans vraiment que We Are Patients, on a vraiment plus investi en fait dans le média. Et aujourd'hui, c'est suivi par 140 000 personnes. Nos contenus sont vus entre 1,3 et 1,5 million de fois par mois. Et l'idée du média, c'est de partager des expériences, des témoignages patients, aidants.
Voilà, c'est pas seulement adressé aux patients, c'est aussi adressé aux aidants.
Aux aidants aussi, tout à fait.
Oui, les qui ont un rôle très important.
Un rôle extrêmement important, en effet. Tout à fait.
Alors, vous avez aussi un deuxième média.
Oui, un deuxième média, cette fois-ci auprès
de... Vous êtes un hyperactif ou...
C'est vrai qu'on aime bien le côté média, ça fait partie. En fait, la communication aujourd'hui devient média, les marques deviennent médias. Et donc, quand on accompagne des acteurs sur les réseaux sociaux, on est un peu organisé comme un média, on crée beaucoup de contenu et on cherche à développer des audiences.
Et donc, on a lancé... avoir un esprit créatif quand même. Hein,
exactement, et c'est pour ça qu'on a lancé aussi Buzz Comptoir, qui est le média de l'équipe officinale. Donc voilà, on s'adresse cette fois-ci aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie.
D'accord. Julie, vous organisez aussi...
Influence for Health.
On en a pour 2 heures, là. Vous allez organiser, vous organisez un événement qui s'appelle Influence for Health. C'est ça, ça consiste en quoi?
Alors, tout à
c'est
fait.
C'est un événement annuel. Hein.
C'est un événement annuel. On a créé Influence for Health il y a 4 ans. Donc, on l'a fait les 2 premières années en présentiel, la 3e année en distanciel. Et cette année, c'est un format hybride, présentiel-distanciel. Et l'idée, c'est d'inviter...
Ça se passe
tous les ans au mois d'octobre. Et l'idée, c'est d'inviter des créateurs de contenu, influenceurs du milieu de la santé pour parler de leur gestion des réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que les premières années, on avait beaucoup de patients. Et cette année, la 4e édition, on a fait une édition spéciale TikTok avec principalement des professionnels de santé et des personnes en situation de handicap.
D'accord. Donc, on disait au début, les professionnels de santé ont vite compris un petit peu l'intérêt de cette nouvelle communication. Ils ont plus ou moins rapidement pris le train de cette communication digitale.
Alors, c'est venu étape par étape, mais c'est vrai qu'il y avait déjà à l'époque des blogs. Je parlais à l'époque, il y a toujours des blogs, mais disons que c'était l'influence en santé, c'était par le biais des blogs. Il y avait des blogueurs professionnels de santé et patients, mais par exemple alors voilà, hein, qui était Baptiste Beaulieu, l'un des blogs à l'époque très important. Voilà, il y avait une existence déjà des professionnels de santé. Et puis au fur et à mesure, en effet, ils ont appréhendé les réseaux sociaux et puis la crise aussi du Covid est passée par là. Ouais. Il y a eu une accélération très clairement à la fois sur Twitter et sur LinkedIn par exemple.
Et qui ont été les premiers à s'intéresser? Les médecins, les patients,
D'abord, c'était vraiment les patients.
D'abord les patients.
Tout à fait. D'abord les patients. D'abord parce que ils recherchaient de l'information sur Internet. Certains d'entre eux ont commencé aussi à partager de l'information sur des blogs. Moi, je me souviens d'Amélie, par exemple, qui avait la femme de Dodgkid et qui partageait son expérience de vie. Et donc, il y avait en effet une communauté qui interagissait avec elle. Catherine Cerisier aussi, qui a eu une des pionnières avec son blog, et puis les professionnels de santé sont venus aussi au fur et à mesure.
D'accord, et qui donc ce sont d'abord les patients, ensuite les médecins?
Oui, d'abord les patients et ensuite les médecins en effet. Ouais, il y a beaucoup plus de patients, tout simplement parce que aussi eux, ils ont ce sujet très, très direct avec leur pathologie.
Et donc du coup, les associations de patients ont pris un pouvoir un peu plus important, non? Alors, on parle de patients acteurs de sa santé, c'est vraiment le cas grâce aussi aux réseaux sociaux.
Aux réseaux sociaux, les associations de patients sont sur les réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram également. Et c'est vrai qu'au sein des associations de patients, il y a des leaders d'opinion, des patients experts, mais aussi des influenceurs pour certaines pathologies.
Et ce type de communication a démultiplié leur influence, leur pouvoir.
Oui, mais c'est vrai, d'une part, c'est vrai que l'association, bien sûr, est toujours un acteur vraiment référent de la voix des patients. Mais maintenant, à côté, il y a aussi des personnalités qui sont pas forcément dans le cadre associatif, qui peuvent tout à fait créer leur propre compte Facebook, Instagram ou TikTok, s'exprimer et pas nécessairement le faire dans le cadre associatif. Disons que maintenant, il y a différentes voix des patients.
Alors Julie, c'est quoi un influenceur ? Il paraît que c'est plus le bon terme.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus d'influenceur, mais plutôt de créateur de contenu. Un créateur de contenu santé, c'est une personne dans le milieu de la santé, donc un patient ou un professionnel de santé qui a une audience sur les réseaux sociaux, qui a un grand nombre de personnes qui le suivent. On parle des patients qui sont très suivis, qui parlent de prévention, de sensibilisation de leur pathologie. Et on a aussi des patients qui sont devenus entrepreneurs aujourd'hui et donc qui ont une véritable entreprise sur leurs réseaux sociaux. Et on a également les professionnels de santé. Donc les professionnels de santé, il va y avoir les étudiants et les internes en santé, où là, ils parlent vraiment de leur quotidien. Et depuis un an et demi, la crise sanitaire, il y a eu une accélération des professionnels de santé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, avec des professionnels de santé qui sont suivis par des milliers de personnes. Je pense par exemple à Dr Never qui a 2,4 millions de personnes qui le suivent sur TikTok.
Bon, c'est énorme en France.
2,4 millions.
Un dentiste. Il est suivi par qui ? Par dentiste ou par des patients ?
Alors, il est suivi par des patients, par du grand public. C'est vrai que les audiences sur TikTok vont être très jeunes et ça va être des patients, mais aussi des professionnels de santé. Parce qu'entre professionnels de santé, ils se connaissent tous sur les réseaux sociaux. Et ils partagent en fait leur quotidien, leurs astuces, et aussi ils ont la légitimité de lutter contre les fake news. C'est pour ça que ce phénomène est arrivé depuis la crise sanitaire, parce qu'ils avaient cette légitimité à dire, bon voilà, alors pendant le Covid, vous pouvez faire telle chose, et comme le patient a cette légitimité-là dans le secteur de la santé.
Il faut quand même avoir du temps quand même, non ?
Il faut
c'est
avoir du temps.
D'être dentiste et de faire ses propres contenus, ils sont peut-être aidés, non ? Alors, quand ils ont 2 millions de personnes, ils sont peut-être un peu aidés ?
Ils peuvent être aidés. Après, je pense
je sais
que
pas
c'est...
si j'irai chez un dentiste qui a 2 millions de followers. Hein. Je ne sais pas.
Bah, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
S'il est aidé, parce que sinon, il n'a vraiment pas le temps.
C'est vrai, mais créer du contenu c'est... prend beaucoup, beaucoup de temps.
Ça prend du temps, mais aussi, je pense que c'est très intégré un peu dans leur vie. Ils ont les codes, ça va très vite. Ouais. Donc, voilà, certains préfèrent prendre du temps pour écrire un livre. Eux, ils décident de s'investir pour animer un compte social. Ouais. Donc je pense que c'est pas...
Et ça peut être aussi parfois très rémunérateur, non ?
Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu le métier évoluer depuis 4 ans et depuis aussi Influence for Health, nous, l'événement. Au début, les influenceurs étaient influenceurs, mais c'était pas leur métier. Aujourd'hui, ce sont des auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, ils ont des partenariats, ils mettent en avant des marques. Et d'ailleurs, là, je vois à l'écran notre plateforme créateur de contenu Influence for Health, où on est en partenariat avec des patients. Et en fait, les marques veulent faire des partenariats avec ces personnes qui ont des fortes audiences qui les suivent.
Alors, ces influenceurs, ils communiquent sur des réseaux sociaux sur lesquels, de façon privilégiée, ils communiquent. Il paraît que le blog, ça fait figure d'ancêtre maintenant, le blog, non ?
Alors, en fait, ça dépend. Par exemple, vous avez des influenceurs aussi qui sont plus sectoriels. Donc, vous privilégiez des réseaux comme LinkedIn, Twitter. Ceux qui sont plus dans le débat public. On prend des professionnels de santé qui aussi se sont fait un peu plus connaître depuis la crise. Antoine Flao, Mathias Vargon aussi, qui était déjà depuis un petit moment sur Twitter. Ils sont suivis par des dizaines de milliers de personnes. Donc, en fait, ça va dépendre vraiment s'ils sont dans le débat public, s'ils sont aussi sur un aspect beaucoup plus de conseils, où là, ils vont privilégier des plateformes comme Instagram ou TikTok. Donc, en fait, tout dépend quelle est la vocation du réseau social, de l'audience aussi qui souhaite.
Le professionnel, c'est plus ces réseaux comme LinkedIn ou...
Le professionnel, il y en a beaucoup sur LinkedIn, mais après... Chaque réseau social a sa typologie d'influenceurs. Et par exemple, sur Instagram, on va être vraiment sur l'image, sur le contenu imagé. Donc par exemple, Charlène Kangourou Girl, c'est une jeune femme qui a une forte audience qui la suit, qui a une stomie et qui crée ses propres poches. Et donc, qui se prend en photo avec ses poches. Et donc, elle a un taux d'engagement et un nombre de personnes qui interagissent sur sa communauté qui est exemplaire et qui est phénoménal. Et c'est vrai que c'est ce type aussi d'influenceurs qu'on voit sur Instagram.
C'est étonnant que les audiences soient si énormes que ça. On peut l'expliquer, ça ?
On peut l'expliquer parce qu'aujourd'hui, Internet est devenu le lieu de recherche de l'information santé grand public. Il suffit de regarder aussi le nombre de requêtes qu'il y a sur Google.
Elles sont très, très importantes. Sur les réseaux Internet.
C'est authentique.
Oui, et puis ensuite, vous avez quelqu'un dans lequel on peut avoir confiance. La communication influenceur, c'est une communication incarnée. Donc, on s'attache aussi à une personnalité qui va parler à la fois de manière professionnelle, mais aussi de son quotidien ou de son expérience. Elle est crédible, elle est légitime et on en a confiance.
Et je donne l'exemple de Sarah Talbi, par exemple, avec qui nous travaillons. Sarah, elle est née sans bras. Et aujourd'hui, elle explique sur les réseaux sociaux la parentalité quand on a un, bah, quand on a un enfant et qu'on n'a pas de bras. Comment? Et elle se met en scène avec sa petite. Et donc, elle fait des vidéos totalement authentiques et bah, qui jouent aussi sur l'émotion de l'internaute. Et c'est la raison pour laquelle elle est très suivie aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il y a un cadre réglementaire qui régit un petit peu ce que disent les gens? Parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Tout n'est pas obligatoirement validé scientifiquement. Alors, chacun est responsable de ce qu'il écrit?
Disons que, en effet, chacun est responsable de ce qu'il écrit. Donc, chacun a sa ligne éditoriale et en tant que, si on est un professionnel de santé, bien entendu, il y a de toute façon un cadre. Ils le connaissent. Quand on travaille ensuite en partenariat avec des acteurs pour lancer une campagne de sensibilisation, de prévention, là aussi, oui, c'est pareil, c'est cadré. On n'est pas promotion.
Quand il y a un partenaire ou un sponsor, là, c'est plus cadré.
C'est cadré parce que, en effet, la réglementation impose un certain nombre de choses.
Alors, c'est tellement maintenant diffus que même les institutions maintenant s'y intéressent et vont chercher des influenceurs.
Oui, on l'a vu d'ailleurs avec l'ONU, par exemple, le lancement c'est Team Allo, qui a été lancé, où ils ont réuni un certain nombre de scientifiques et de médecins pour lutter contre les fausses informations, faire la promotion aussi quelque part du progrès, d'expliquer la vaccination. Donc même des institutions comme l'ONU s'appuient sur des influenceurs pour faire passer
comme
un certain nombre.
L'OMS aussi.
L'OMS l'a fait. Des acteurs même plus locaux comme le Centre de sciences des technologies et de culture de Bordeaux, où là, pareil, ils ont fait appel à trois influenceurs pour parler de science et de technologie.
Et puis au niveau France aussi, par exemple, à l'occasion d'Octobre Rose, vous allez recevoir Delphine Rémy après, avec la Fédération Nationale des Médecins Radiologues, on a mis en place toute une campagne sur le dépistage organisé pour les femmes de 50 à 74 ans, pour inciter au dépistage de masse. Et donc, plusieurs influenceuses dans ce cadre ont fait un partenariat avec nous et avec la FNMR pour inciter leurs audiences à aller se faire dépister. Et on a fait ça à l'occasion d'Octobre Rose.
Alors pour finir, le scoop, un peu l'information en première pour Check-up Santé, c'est votre nouvelle offre
Influenceresse. Tout à fait. En effet, on va travailler en partenariat avec un certain nombre de créateurs de contenu, patients dans un premier temps, pour justement sur différents types de sujets, des campagnes de sensibilisation, de prévention, et faire le lien entre les acteurs de la santé et les influenceurs.
Et aussi une nouveauté cette année, c'est qu'on a notre newsletter bimensuel sur l'influence en santé, donc les chiffres, les campagnes d'influence, et donc deux fois par mois. Vous pouvez vous inscrire sur notre site et donc vous pouvez recevoir,
vous
bien entendu,
cette...
Exactement.
J'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette Faudune. Merci beaucoup, David Regard. Et bonne année 2022.
Bonne année. Merci de nous avoir reçus.
On va à présent accueillir une vraie influenceuse, Delphine Rémy, qui nous vient directement de Bruxelles pour Check-up Santé.
BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Delphine Rémy, bonjour.
Bonjour.
Et merci surtout de venir spécialement pour nous de Bruxelles.
Mais c'est toujours le bonheur
de raconter votre aventure.
C'est toujours le bonheur de venir à Paris.
Tant mieux. À Bruxelles aussi, tu dis sympa, non?
Oui, très sympa. Très très sympa.
Alors, vous êtes vous avez une vie antérieure riche, hein. Vous êtes une sérieuse entrepreneur. Vous avez eu 1000 vies avant votre dernière aventure. Vous êtes, avant de vous lancer dans l'aventure digitale, vous avez été interprète, prof de français, vous avez fait de la psychologie, de la nutrition. Vous n'avez pas travaillé chez Carglass dans le laveur de vitres, non? Pas encore.
Non.
Ok. Et on peut dire quand même, et vous avez évidemment lancé ce dont on va parler, on peut dire un peu, c'est un petit peu à la suite de votre cancer du sein qu'a démarré cette aventure?
Ah oui, tout à fait. L'aventure d'influenceuse, en fait, c'est un terme que je ne me reconnais pas trop là-dedans. Et c'était un terme que j'affectionnais pas spécialement.
Le terme d'influenceur, d'influenceuse.
Oui, influenceuse de santé, je veux bien. Mais en fait, moi, ce que je regarde pas la taille de la communauté, mais les cœurs que je touche. Et en fait, c'est arrivé malgré moi parce que donc j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en juin 2019. J'ai eu la totale égale tumorectomie, mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, tout ça rime parfaitement.
Vous avez eu le cocktail complet.
Oui, j'ai eu le cocktail complet et encore l'hormonothérapie pour 10 ans. Et en fait, j'ai commencé à partager dans un blog, j'avais déjà des blogs, un blog de nutrition et un blog de psychologie du comportement alimentaire.
Mais vous aviez envie de communiquer.
Mais en fait, j'avais envie d'écrire, donc j'ai d'abord écrit pour moi dans un journal de bord. sans intention de publier. Et mais j'étais bien dans ma petite bulle, mais j'avais aussi envie de partager avec le monde extérieur. Et du coup, j'ai publié un billet. J'ai créé le blog Cancer Je Gère, un nom qui a été décidé comme ça, sans vraiment réfléchir. Et j'ai pas réalisé l'impact que ça allait avoir. Donc j'ai partagé un billet, deux billets, trois billets, et puis c'est devenu... je vais pas dire viral parce qu'on parle pas de millions de personnes, mais ça a
mais
été
ça a été très lu,
très lu, ça a été suivi, puis j'ai eu du répondant, et puis c'est devenu un lieu de rencontre.
Boule de neige, non?
Mais il y a eu un effet boule de neige, et alors c'était pas que sur le cancer, en fait c'était la voix de la petite Delphine qui se pose des questions sur la vie, en fait. Donc ça ne parlait pas que aux personnes qui étaient touchées par le cancer. Enfin, de toute façon, on est une sur huit. On connaît toutes ou tous une femme qui a eu le cancer. Donc, c'est des accompagnants.
Bien sûr.
Voilà, exactement. Donc ce blog a été très lu. Et puis, c'est vrai que c'est agréable quand on a quand même un certain retour. Et c'est devenu une communauté assez bienveillante où j'ai été aidée par plein de femmes qui avaient eu un cancer du sein, et j'ai pu à mon tour aider des femmes qui avaient un cancer du sein. Et donc voilà, donc tout ça a été, ça a été beaucoup de travail, et j'ai été vite contactée par les éditions Mardaga pour publier un livre juste après mon cancer. Donc c'est le contenu du blog qui est voilà.
D'accord, donc vous êtes une influenceuse patient. Il y a des influenceurs médecins, il y a des influenceurs des
patients.
Vous êtes une... patiente.
On va dire.
Peut-être vous êtes une patiente experte ou pas, vous connaissez par cœur maintenant.
Mais patiente experte, c'est un terme, c'est un métier qui est reconnu en fait suite aux études à l'université des patients.
Il y a beaucoup de métiers qu'on peut exercer sans avoir de diplôme.
Bon, je suis pas une patiente experte ou patiente partenaire, mais
le patient, vous n'êtes pas la seule. Il y a aussi d'autres patients qui sont aussi influenceurs. Vous dites que c'est bien que les patients prennent la parole et
communiquent
sur ce qu'ils ont. Ouais.
Mais je trouve ça extraordinaire.
Sans
parce
tabou
que...
surtout, parce que ce que vous dites, c'est vraiment sans tabou. Quoi.
Sans tabou. Et en fait, il faut quand même réaliser que le cancer, c'est pas que des faits, c'est pas que des chiffres. On nous balance des chiffres, des pourcentages de récidives et de. Il y a une communication très verticale avec le médecin. Bah, vous devez le savoir. Et en fait, nous, c'est pas ça qu'on veut, parce que le cancer, c'est des faits, mais c'est surtout des émotions. Et on a envie d'une communication horizontale et se frotter aux autres patients. Et parce que qui peut mieux qu'une femme qui a perdu un sein, deux seins.
Qui peut comprendre qu'une femme qui a perdu
un sein. Bah oui, le médecin peut expliquer, voilà, vous allez avoir une mastectomie, ceci, cela, mais il y a qu'une femme qui a perdu un sein qui peut vraiment soulager une autre femme qui a perdu un sein. Ou l'asthénie pendant la chimio, oui, vous allez être épuisé, mais de savoir comment les autres s'en sont sortis. Et en fait, tout ça, j'ai partagé sans tabou. Et j'ai été moi-même inspirée par des femmes. Et j'ai pu inspirer à mon tour, mais... Vous savez, je pense que quand on partage avec authenticité...
Évidemment. Et donc, voilà. Vous avez écrit un livre, Cancer, je gère.
J'ai écrit un livre, Cancer, je gère. Mais ça, c'est en fait le blog qui a été...
À la base, un blog.
Voilà,
qui a été
en journal de bord. Ouais. Et puis, ça s'arrête, en fait, à la fin du cancer. Mais j'ai continué encore à beaucoup partager sur l'après-cancer, parce que ça, c'est quand même une autre paire de manches.
Donc, c'est un véritable métier à temps plein.
Plus que
temps plein.
Plus que temps plein.
25 heures sur 24. Parce que vous écrivez vous-même.
J'écris tout moi-même, j'ai fait tout le blog moi-même, les podcasts, je fais tous les montages. Alors parfois, c'est 15 heures de montage. Ah oui, parce qu'après ça, j'ai fait un podcast.
Justement, j'adore le titre, c'est Naître princesse, devenir guerrière.
Voilà, Naître princesse, devenir guerrière. Je trouvais ça
sympa. Guerrière, parce qu'il faut obligatoirement avoir un esprit guerrier pour.
Mais en fait, c'est une image.
Parce que c'est un combat.
Mais c'est marrant parce que j'ai jamais utilisé le mot combat pendant le cancer. Par contre, j'utilise maintenant pour tout ce qui est reconstruction mammaire. Bon, il y a toujours l'image de la guerrière. J'ai reçu cette image de ma scénologue. Nous naissons princesse et la vie nous fait devenir guerrière. Ben voilà. Donc. L'Amazon
donc,
guerrière.
Donc, heureuse qu'il y ait une bonne représentativité des femmes dans le digital.
Oui, c'est vraiment génial. Oui, oui. Et je vois, suite à toute la médiatisation qu'il y a eu autour du livre, j'ai reçu énormément de messages. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces messages? C'était pas possible de pas répondre, parce que c'était des témoignages tellement poignants. Mais à un moment donné, ça devenait impossible de répondre à tout le monde. Et du coup, j'ai mis tout le monde dans un groupe de soutien. Et ça a été vraiment mais extraordinaire. On est plus de 1800 femmes. Et... En fait, elles se sentent plus seules, quoi.
Un point commun, c'est ça, c'est
mais
le cancer du sein.
Cancer des femmes. J'ai voulu l'ouvrir à tous les cancers, parce que finalement, les cancers colorectaux et tout ça, on en parle, c'est moins glamour, hein, de dire quand même qu'on a un cancer. C'est des cancers plus difficiles à partager. Et donc, en fait, dans ce groupe, tout le monde partage sans tabou, il n'y a pas de jugement, c'est hyper bienveillant. Et en fait, on est quand même déjà seul dans la maladie, même si on est entouré d'une famille bienveillante, d'enfants super et tout. Mais dans ces groupes, c'est vraiment extraordinaire. Et franchement,
et des gens qui vous comprennent.
Plus mais
que,
oui.
Parfois plus que la famille.
Mais et plus on, que la
on a
famille.
Parlé,
oui.
On a parlé tout à l'heure un peu des business models. Vous gagnez de l'argent ou pas?
Alors pas
c'est
encore.
C'est pas honteux hein, de gagner de l'argent.
Non, c'est pas ouais. du tout honteux parce que en fait, je ouais. le dis honnêtement, j'engage des frais. De plateforme, il y a un ingénieur du son qui m'aide pour le podcast. Voilà, pour le moment...
Et puis vous vous déplacez aussi, non pour, parfois pour réaliser vos podcasts.
Je me déplace à Paris, souvent, pour interviewer des experts.
Donc vous avez des partenaires?
Alors, pas encore des partenaires, ils contactent.
On il y a juste un appel, non pour...
Lançons un appel, d'accord. mais j'ai quand même quelque chose à dire. J'avais eu des propositions de partenariat de marques qui ne m'intéressent pas. Je vais
c'est
pas...
sûr que les marques de cigarettes, c'est pas génial.
Coca-Cola, cigarettes, ouais. voiture. Non, mais voilà, ils sont toujours intéressés dès qu'il y a une grande communauté, parce qu'il y a beaucoup d'écoute sur le podcast.
Donc vous en avez refusé pas mal.
Mais je veux vraiment... d'abord, il faut que ce soit une marque qui m'a vraiment aidée en laquelle je crois, il faut que ce soit vraiment authentique. J'ai pas du tout envie de partager des... Il faut que ça bien aide sûr. La communauté quand même. Donc ça a un rapport avec
bon,
le cancer.
On appelle pour avoir voilà. des partenaires éthiques.
Éthiques,
voilà. D'accord. Pour finir, vous avez collaboré aussi avec RCA Factory?
Alors oui, donc on a commencé, en fait, on a fait une campagne dans le cadre d'Octobre Rose avec la Fédération Nationale des Médecins Radiologues, donc une campagne de dépistage et ça a été extraordinaire, ça a été partagé. Bon, c'est vrai que j'ai pris une photo où on me rasait la tête, donc c'est clair que ça marche un peu plus que des photos où on, voilà. Et ça a été partagé de nombreuses fois et j'appelle ça une campagne réussie parce que j'ai reçu plein de messages de femmes qui ont dit ben, j'ai enfin pris rendez-vous pour faire ma mammo. Et ça, pour moi, c'est une campagne archi réussie.
Bon, bah merci mille fois. Vous allez voir, la science avance à une vitesse phénoménale.
Ah oui.
Et tout va être magnifique pour vous. Merci Delphine Rémy.
Merci beaucoup.
Merci à nos intervenants d'aujourd'hui. Merci à l'équipe de Check-up Santé. Merci à William Baudry, le véritable boss de l'émission. Et encore, bonne et heureuse année 2022.
BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.